Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. En direct de Paris, je suis votre hôte Jean Weber, le roi du slow, et mes ados en fleurs sont...
Jeff Domenech, boum, quand votre cœur fait boum.
Sophie Benhamon, Sophie Marceau a décidément un très joli prénom.
Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la boum, sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes ciné buddies, pour ce voyage dans mon adolescence et ce film de 1980 réalisé par Claude Pinoteau. 1980, année dominée au box-office par Kramer contre Kramer et les sous-doués, cette année voit également naître Ryan Gosling et s'éteindre le grand Peter Sellers. Adieu, Mr. Chance. Mais laissons sans plus tarder la parole à Sophie, qui résume le film en quelques mots, le fameux pitch « Made in Hollywood », comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages.
Absolument. Alors, tout se passe dans un collège. Vic, Victoire Berreton, a 13 ans. Elle est élève de 4e au collège Henri IV, excusez du peu. Et elle rêve d'être invitée à une boum. Alors, on la voit dans sa vie de collégienne, son coup de foot pour Mathieu, ses cours de danse, les disputes de ses parents. Et elle évolue comme ça, sous nos yeux, à la découverte de l'amour.
Merci Sophie. Voici un chèque de 700 000 dollars. Et maintenant, Jeff, le podcasteur beau comme Pierre Cosso, je sais qu'il est dans la suite, mais c'est pas grave, nous séduit avec la genèse du film.
Non. Bah, en fait, la boum part du principe où la scénariste Danielle Thompson, donc, qui est la fille de Gérard Houry, avait collaboré jusqu'à présent avec son père sur de grands succès, comme La Grande Vadrouille, La Folie des Grandeurs, Rabbi Jacob. Et elle a même fait un film, elle a scénarisé un film qui a été nominé aux Oscars.
La
question est pour Jean.
C'est La Bûche, non ?
Non, scénarisé.
Ah, scénarisé. C'était Apocalypse Now.
Presque. C'était Cousin-Cousine de Jean-Charles Taquet.
Ah oui, très bon film d'ailleurs. Qui a été fait en remake avec Ted Danson.
Exactement, Cousins.
Ouais.
Ensuite, elle a fait les deux films que son père avait fait avec Pierre Richard, sur La Carapate et Le Coup du Parapluie. Et un soir, elle organise un dîner chez elle. Et comme Isabelle Adjani dans Subway, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, où elle se fait chier pendant un repas.
Ah oui,
elle se lève, elle se barre, sauf que là, elle est chez elle.
Ouais.
Donc, elle ne peut pas se barrer, évidemment, mais elle s'ennuie. Et elle part dans son bureau et elle commence à rédiger sur un bout de papier. C'est une histoire d'une gamine de 13 ans, etc., qui a des problèmes avec ses parents, commence à grandir. Voilà, c'est une première idée qu'elle a pendant ce repas. Et sa source d'inspiration première est sa fille Caroline, qui a 13 ans à l'époque, est une ado. Et un jour, elle rentre chez elle, elle improvise un samedi après-midi, et elle voit que sa fille a organisé une boum.
En fait, elle croyait que c'était un goûter au départ, et elle s'est rendue compte que c'était une boum, effectivement.
Voilà, et elle voit plein de gamins partout, elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et donc, ce sont ces deux choses qui ont été le facteur déclencheur pour Danielle Thompson pour écrire ce film. Une des sources d'inspiration de Danielle Thompson, c'était aussi une série américaine qui s'appelait Petit Déj Compris, qui raconte l'histoire d'une famille. Et pour la première fois, elle va collaborer avec Claude Pinoteau.
Ouais.
Alors, Claude Pinoteau, qui lui était habitué à bosser avec Jean-Loup Dabadie, c'est pas la première fois qu'il collabore avec Danielle Thompson. Donc ils vont,
Et j'ai écrit un script pour lui, il a baissé énormément de niveau quand il a travaillé avec moi.
Ouais.
Et j'ai fait pour lui Cache-Cache.
C'était
ma première expérience de scénariste et c'était un grand souvenir parce que c'était un monsieur absolument charmant, comme tu le sais.
Ah oui, Claude, c'est un garçon, un monsieur qui était plein d'anecdotes.
Un garçon.
C'est un monsieur qui était plein d'anecdotes et dont j'en rencontrerai quelques-unes tout à l'heure. Et donc, il collabore avec Danielle Thompson. Tous les jours, il va chez elle dans son appartement boulevard Malesherbes. Donc, il collabore tous les deux sur ce projet-là. Et au départ, Daniel Thompson envisage, c'est avec un producteur qui s'appelle Roland Gritti, faire une série télé.
Sur la boum ?
Sur la boum.
Ouais.
C'est pas du tout un film, etc. Et en fait, c'est un trio qui va se renvoyer la balle. Donc on ne sait pas, en fonction, si vous lisez les mémoires d'Alain Poiré, de Pinoteau, ou la version de Daniel Thompson, c'est pas la même.
C'est drôle.
En fait, Roland Gritti, le producteur, dit OK à Daniel Thompson pour produire une série télé. Alain Poiré, lui, de son côté, va voir Daniel Thompson et lui dit qu'est-ce que tu as comme projet, etc. Ça serait bien que tu fasses un film avec Claude Pinoteau. Et Claude Pinoteau lui dit avoir été démarché par Roland Gritti. Donc on ne sait pas qui de quoi. En fait.
Ouais.
Moi, je soupçonne en fait de Pinoteau d'avoir lu le pitch, d'avoir vu le potentiel et d'en avoir parlé à Alain Poiré.
Ouais. Très possible, effectivement. Ouais.
Voilà. Et je pense que Poiré est allé voir Daniel Thompson en lui disant « Qu'est-ce que tu prépares en ce moment, etc. Est-ce que tu ne serais pas d'accord pour collaborer avec Claude Pinotto ?»
Ouais.
Et en fait, Roland Gritti a accepté que ça devienne un film. Il est quand même crédité, je crois, en tant que producteur du film.
Oui.
Mais il n'a pas... donc, ça c'est pas devenu, c'est pas devenu une série télé, c'est devenu un film. Ouais. Mais à la base, c'était une série
télé. Ça aurait fait une bonne série télé, d'ailleurs, aujourd'hui, même ça pourrait être en streaming. On pourrait voir La Boom aujourd'hui. Voilà. Ouais.
Mais il fait l'affaire après, en fait. Après avoir fait La Boom, il devait enchaîner avec
suite au succès du film.
Télé,
ouais.
Ce qui est assez moderne comme démarche.
Ouais.
Et pourquoi ça n'a pas vu le jour, cette série télé, après le film, vous savez, non ?
Parce qu'ils ont fait La Boom 2.
D'accord.
Et que la série télé, elle est devenue aussi, c'était une série cinéma. Et il y avait même un 3 qui était prévu, La Boom 3.
Ok.
Ils ont mis un an à écrire le scénario quand même, entre avril 79 et avril 80, donc ça a été assez long quand même à se décanter. Et tous les jours, lorsqu'ils bossaient chez Daniel Thompson, ils attendaient que la fille de Daniel Thompson rentre du lycée, Caroline,
ouais,
pour lui exposer ce qu'ils avaient écrit, les vannes, etc. Savoir si elle le validait, parce que est-ce que c'était un langage de jeunes des années 80, etc.
C'est drôle.
Et donc, ils se sont inspirés énormément de cette fille, Caroline, qui d'ailleurs a fait un petit caméo dans le film, lorsqu'on la voit. Alors c'est très court, hein, faut pas éternuer à ce moment-là, ni cligner des yeux. Lorsque Vic Berreton, donc Sophie Marceau, descend du train, qu'elle rentre du sport d'hiver, c'est une demoiselle blonde qui est juste derrière, qui saute du train, qui Sophie Marceau tourne pour dire au revoir.
Ah ouais, j'ai cligné des yeux et je l'ai raté.
C'est la fille de Daniel Thompson. Voilà. Mmh. Et le tournage a eu lieu pendant l'été 80. Et pour ce qui est du casting, je vais faire la passe à ma camarade Sophie.
Ce qui nous amène à Sophie, une podcasteuse sur laquelle l'âge n'a pas de prise et qui nous parle un peu plus d'une autre Sophie, donc Sophie Maupu, qui a bien fait de prendre un pseudonyme.
Tout à fait. Alors... Il a failli pas avoir de Boom parce qu'il a failli pas avoir de Vic, en fait. Il faut savoir qu'ils l'ont cherché pendant des mois, cette Vic. Ils ont fait passer des essais à toutes les jeunes filles de Paris. Sont passés Emmanuelle Béart, Christiana Reali, Sandrine Bonner, Mathilde Amet. Chacune était pas le rôle. Voilà, Claude Pinotto avait une idée très précise de cette fraîcheur et de qui il voulait pour sa Vic. Et au bout d'un moment, un jour, ils ont annoncé dans la presse, venez samedi au studio et grand casting géant. Ils ont mis de la musique, ils ont mis des pop-corn, ils ont mis des tas de trucs et ils ont fait venir des jeunes et tout. Ils ont casté là une bonne partie des jeunes qui font partie de la bande de Vic, mais pas de Vic. Alors après, Françoise Ménidret, on était au début du casting. Françoise Ménidret...
très grande directrice de casting qui a fait la plupart des films de mon père. Je voudrais lui faire un petit shout-out, comme on dit.
Absolument, très grande directrice de casting. Claude Pinotto et elle font la sortie carrément des collèges avec des cartes de visite estampillées Gaumont pour ne pas se faire passer pour des... pour
des exhibitionnistes. Hein.
Exactement. Et pas de Vic. Et donc, c'est vraiment à se demander. Même la fille, justement, de Daniel Thompson va passer des essais, mais elle est déjà un peu vieille et puis elle n'a pas très envie de devenir comédienne.
Ouais.
Et finalement, Sophie Marceau, elle, de son côté, voulait gagner un peu de sous. Elle a que 13 ans, mais elle vient d'un milieu qui n'est pas privilégié du tout et elle a besoin d'un peu d'argent pour ses vacances. Et sa mère lui dit « Écoute, il cherche des jeunes pour faire des pubs photos. Regarde, tu devrais aller donner ta photo si jamais tu peux gagner quelques sous, comme ça, et tout. » Et elle va s'inscrire dans une agence, une sorte d'agence de mannequin enfant sur les conseils de sa maman. Et c'est là que Françoise Ménidret, en désespoir, se dit « Bon, bah, on va tenter les agences de mannequin enfant. » C'est une agence qui est près de l'opéra, qui n'existe plus. Et elle tombe en arrêt sur les photos de Sophie Marceau dans ce catalogue, Sophie Maupu. Dans ce catalogue, et immédiatement...
Venue la veille.
Qui avait déposé ses photos la veille, très peu de temps.
Wow.
Et donc, il la convoque pour des essais à La Gaumont, à Neuilly, au siège. Alors, elle va y aller avec son papa. Et quand elle arrive, vers 14h, il y a encore plein de jeunes filles, avec plein de papas et de mamans. Et il y a trop de monde. Alors, son père et elle disent « Bon, on va revenir parce qu'ils n'ont pas envie de faire la queue.
Ouais. »
Elle n'a pas plus que ça envie de faire du cinéma. Donc, ils se repointent vers 19h. Là, il y a moins de monde. Il y a plus que deux personnes. Elle est la dernière à passer. Et ils lui font passer toujours la même scène. Alors, c'est toujours la même scène qu'ils faisaient passer aux jeunes filles. C'est la scène d'invitation à La Boum quand ils s'éloignent du collège. Avec
et je crois que les garçons devaient lire « Le corbeau et le renard ».
Ah bon?
Ouais.
Tu as passé le casting?
Oui, j'ai essayé, je suis arrivé dernier.
Déjà que tu as été recalé sur les compères.
Hein. Ils sont tous, le jouet, les compères, dès qu'il y a un enfant, j'ai été recalé.
Et là, c'est l'évidence. Ils entendent Sophie Marceau, elle a le ton juste, elle a cette fraîcheur, elle a le charme des 13 ans. Un mélange d'inexpérience et d'instinct qui fait le truc. Et c'est le coup de foudre entre Pinotto et elle. Le coup de foudre, bien sûr, artistique.
Ouais.
Attention. Et elle s'appelle Sophie Maupu.
Et tu sais comment elle trouve son pseudonyme?
C'est encore Claude Pinotto qui trouve son pseudonyme. Il lui propose une collection de généraux d'armée et de noms de rues d'un plan de Paris. Alors, il y a Berthier,
Peu comme Gabin dans le camp des Siciliens quand il fait faire ses faux passeports.
Absolument, il tourne la nuit.
Pierre, René.
Et finalement, elle va tomber en arrêt sur Marceau parce que... ça lui permet comme ça de garder ses initiales,
ouais.
Sophie Marceau, comme le général Marceau.
C'est vrai, c'est une star instantanée, comme on dit en anglais. Dès qu'elle apparaît à l'écran, c'est lumineux que c'était effectivement Vic. Et elle a une extraordinaire carrière internationale. Elle a 56 ans aujourd'hui. Je crois qu'elle a joué dans LOL, où elle fait le rôle de la maman, cette fois-ci d'une jeune fille. Et aujourd'hui, elle pourrait quasiment jouer Poupette, le rôle tenu par Denise Gray. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'elle elle a eu un problème avec Pinotto après sur la 7e cible, je crois.
Oui.
Ouais. Jeff, tu
en
peux
fait,
nous en parler?
Bien sûr, c'est Claude qui m'a expliqué qu'il écrit donc la 7e cible pour Ventura. Et le rôle de la violoniste doit être joué par Sophie Marceau, qui accepte sur le principe, etc. Tout est prêt. Et... en fait, à quelques semaines du tournage, elle appelle Claude pour lui dire « Je suis désolé, je ne peux pas faire le film parce que je vais tourner avec Zulawski.
Wow. »
Évidemment, Claude le prend très mal parce que c'est lui qui l'a révélé, il a fait faire ses premiers films. Il se retourne vers Elisabeth Bourgine, qui fera le film. Et il y a une autre anecdote derrière.
Excuse-moi, mais elle rachète son contrat à la Gaumont. Elle est obligée de payer 1 million de francs à la Gaumont pour pouvoir sortir de ce film.
Oui, je ne suis pas un homme de chiffres, je ne sais pas. et Ventura avait dit « Mieux vaut pas que je la croise ». Ce qui veut tout dire chez Ventura, parce qu'il a très mal pris évidemment le fait qu'elle ait refusé le rôle. Et quelques années plus tard, lorsque Claude prépare l'étudiante, Claude Pinotto, l'étudiante au départ, le casting, c'est Isabelle Adjani, Christophe Lambert. Et bis repetita. Adjani accepte, évidemment, parce qu'elle a fait la gifle
quelques
années auparavant.
Et elle part avec Zulawski ?
Non, elle avait déjà fait Possession avec Zulawski. Non, en fait, elle a le financement pour Camille Claudel, qui tombe. Et Depardieu étant pris en permanence, a juste ce créneau de tournage au moment où l'étudiante doit tourner. Donc, c'est la mort dans l'âme qu'elle appelle Claude. Sincèrement, je suis désolé, je ne peux pas faire l'étudiante.
Wow.
Donc, c'est la deuxième fois que ça lui arrive.
Ouais.
Et donc, Adjani ne fait pas faire le rôle.
Elle n'était pas un peu vieille pour faire l'étudiante?
D'accord.
Ouais.
Isabelle Adjani n'est jamais vieille.
Bravo.
S'il vous plaît, on n'a pas de mal d'Isabelle. Et Christophe Lambert, qui devait jouer avec Adjani, était ravi.
Il faisait un étudiant aussi?
Non, il jouait le rôle du musicien.
J'ai pas vu le film.
Et il allait reconstituer le duo de Subway.
Ouais.
Et Christophe Lambert dit non, moi je veux tourner avec Adjani, je veux pas tourner avec Sophie Marceau.
Waouh.
Quand on sait qu'ils ont passé 6 ou 7 ans ensemble après, plus tard, donc c'est quand même assez drôle.
Ouais.
Et donc, il se retrouve sans acteur. Et c'est Vincent Lindon qui a tourné donc, avec Sophie Marceau dans L'étudiante.
D'accord.
L'étudiante qui a été un peu vendue à l'étranger comme La Boum numéro 3.
Est-ce que ça a eu le même...
Au départ, il voulait faire une trilogie sur la...
Est-ce que ça a eu le même succès que La Boum ou L'étudiante?
Oh oui, quand même. Pas le même, hein, mais ça a eu un bon succès. Oui.
Parce que La Boum est un carton énorme,
énorme
au box-office. Et La Boum 2 aussi, la suite, est un énorme succès. Ils n'ont pas fait de Boom 3, donc véritablement, ils ont écrit un scénario ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, c'est... en fait, enfin, au départ, ils voulaient faire une trilogie.
Mais
Pinotto.
Le concept de 10 ans après a toujours été là. C'est-à-dire, la Boom 3, ça n'a jamais été tout de suite après le bac. C'était après les études supérieures, avant d'entrer dans
comme le deuxième
la train
spotting, quoi. C'est plusieurs années plus tard, on les retrouve.
Ouais, ils voulaient faire un film où elle devient femme, en fait.
Ouais.
Donc, c'est l'étudiante, c'est la Boom 3, en fait. Ouais. Ils ne l'ont pas appelé la Boom 3.
Mais en Italie, je pense que c'est sorti sur le titre de la Boom 3. C'est opportun...
Là, vous connaissez le nom italien de la Boom? Le titre italien, La Boum.
Vas-y.
La Bella Ragazza.
Non,
c'est quoi?
Il tempo di mele.
Et ça veut dire quoi?
Ça veut dire le temps des pommes.
Ah, et pourquoi?
Pourquoi les pommes?
Oui.
Parce que les petites pommes.
Ah, oh, ouais. Le salaud.
Les petits
Italiens.
Les
assez, ouais. Tu sais la définition d'un français? C'est un Italien de mauvaise humeur. Bon, à propos de titre, vous voulez deviner le titre anglais du film? Sophie?
The Party.
Bravo, c'est ça.
The Party, mais c'était pas déjà...
Exactement comme le film de Peter Sellers, il l'a appelé The Party.
Et alors, sur Zulawski, puisqu'on tu évoquais Zulawski, ce qui est très drôle, c'est que le film est un succès. Je fais un petit flash forward. Ouais. Le film est un succès, comme on l'a dit. Et Sophie Marceau et Claude Pinoteau sont appelés un peu partout pour en faire un peu le service après-vente, notamment au Festival de Cannes.
Ouais.
Alors que le film est sorti en décembre. Mais ils vont là pour, a priori, moins de 24 heures. Et pour faire un peu la promo, rencontrer les gens et tout ça. Et on leur dégote une chambre au Majestic, enfin, une chambre pour une suite pour Pinoteau et une petite chambre pour Marceau. Et Pinoteau, de manière très élégante, va échanger sa suite pour Sophie Marceau, qui a les yeux émerveillés devant cette suite. Et elle a aussi les yeux émerveillés devant la piscine du Majestic. Elle va prendre un bain. C'est normal.
Elle découvre ce monde.
Ouais. Absolument. Et elle sort de la piscine parce qu'ils sont obligés de rester une nuit supplémentaire.
Ouais.
C'est pour ça. Et donc, elle sort de la piscine et là, elle arrive en maillot de bain et Pinoteau la couve et la protège parce qu'il a promis à ses parents de la protéger de tout ce milieu et tout ça.
Ouais.
Et là, il y a Isabelle Adjani avec qui donc Pinoteau avait tourné dans la gifle, qui elle, Pinoteau, qui fait « Oh !» Et il s'approche de la table. Et à cette table, il y a Isabelle Adjani et André Zulawski.
L'immonde Zulawski qui a repéré les petites pommes, le salaud.
Pas encore, je pense pas, non.
Non, il l'a rencontrée, elle avait 15 ans, effectivement, quand ils se sont rencontrés. Et il sortira avec elle 3 ans plus tard. Il y a un côté un peu John Derek et Beau Derek, je ne sais pas si vous voyez.
Mais, mais c'est vrai que dans le...
No comment.
Dans les rencontres qu'ils ont pu faire grâce à la promo et la boum, ils sont en Italie où le film a été un carton. Il a fait plus entrer en Italie qu'en France, le film.
Ouais.
Et les gens de la Gaumont proposent à Claude et à Sophie Marceau de visiter Cinecittà. Et donc ils visitent les grands plateaux, etc. Et sur le plateau 5, il y a Fellini qui est en train de préparer Évoque le navire.
Wow.
Et donc il y a un décor immense avec ce grand bateau qu'ils
ont construit,
etc.
C'est pas son meilleur film, je l'appelle Et le Naveva.
Oui, magnifique. Produit par Broccoli.
Je croyais que c'était Toscan du Plantier, non ?
Non, Broccoli, Navet, bon. Okay.
Ah, bravo, waouh.
Et donc Claude rentre, et puis il voulait pas, il était assez, il dit j'aime pas déranger les réalisateurs, mais bon. Il n'y avait pas de tournage en ce moment, ils étaient juste en préparation. Et donc, ils regardent ce grand bateau, etc. Et Claude avait tourné dans Cinecittà un film précédent qui s'appelait Le Grand Escrogriffe, avec Montand et Brasseur.
Ah oui, bien sûr. Ouais.
Et donc, il regarde ça. Et puis, Sophie Marceau, il est quand même de voir tous ces grands décors et tout. Et puis, il voit un mec en haut de la cheminée du navire, sur l'échelle. Et il reconnaît son premier assistant italien qui était sur le Grand Escrogriffe.
Wow.
Et donc, il se salue, etc. Et ce assistant s'appelait Gianni Arduini. Et il voit Claude dire « Oh, comment ça va ?» etc. Et ça lui fait « Ben viens, je vais te présenter au maître.
Mmh. »
Et là, Pinoteau, il est quand même assez impressionné. « Putain, c'est comme Fellini, non, ne le dérangez pas. »« Si, 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 je l'ai mis au courant que tu venais, etc. » Il appelle par Taki Walki.
Ouais.
Et Fellini dit « Oui, qu'ils viennent. » Et Fellini avait vu la boum.
Wow.
Donc il le félicite, donc il le serre la main. Et il embrasse Sophie Marceau, à qui il promet une très grande carrière. Et Claude voit Giulietta Massina qui est assis, donc il n'a pas pu s'empêcher d'aller l'embrasser. Et donc quand même, voilà, ils ont eu quand même l'aval de Fellini, ce qui est quand même pas rien, quoi.
C'est beau, effectivement. Ouais. Tu avais vu ce film d'horreur qui s'appelait le Grand Escogriffe de la nuit, avec Freddy Krueger?
Ah oui, c'est bon, on peut se lâcher au niveau des vannes pourries. Hein.
C'est toi qui as commencé. Donc. Mais effectivement, Sophie Marceau a une extraordinaire carrière internationale par la suite. Elle deviendrait une Bond girl, elle joue dans Braveheart. Elle devient elle-même réalisatrice. J'ai vu, elle fait un film avec Christophe Lambert.
Mm-hmm.
Deux films, elle a fait, je crois.
Ah, deux films.
Okay.
Ouais. Et c'est vrai que
elle a disparu de Deauville.
Elle est très connue en Amérique aussi. Elle a fait des grands films comme Force Hagan, Police. Elle est avec Jean-Paul, ton ami dans Joyeuse Pâques.
Joyeuse Pâques, tout à fait. Ouais.
Et je voudrais parler un petit peu avec toi, Sophie, des autres acteurs du film.
Oui, bien sûr. Alors, il y avait pas Claude Brasseur au départ. Parce que Danielle Thompson, pour une raison que j'ignore, elle n'est pas rentrée dans les détails. Je l'ai rencontrée longuement pour parler de la boum, mais elle m'a dit « Voilà, le film était pour Francis Perrin. » C'était un peu un deal entre Danielle Thompson et Francis Perrin. Et donc, Claude Pinoteau doutait un peu du truc. Il avait dirigé Francis Perrin dans La Gifle, en amoureux transi maladroit. Et il ne le voyait pas trop en père de famille d'une adolescente. Mais bon, Danielle Thompson insiste, c'est ça qu'au scénariste, c'est telle qualité du film, il accepte.
Mais là, au départ, c'est pour une série, c'est peut-être pour ça qu'il ne pensait pas en faire un film.
Donc peut-être. Mais il y avait ce deal un peu entre Danny Thompson et Perrin. Et donc, ils écrivent même un rôle un peu sur mesure pour Francis Perrin, d'un père assez jeune, débordé par sa fille adolescente, qui justement a du mal parce qu'il a été père jeune, parce que Francis Perrin n'était pas beaucoup plus vieux que ça. Et on tend le scénario fini à Francis Perrin qui fait « Oh, non, j'aime pas trop en fait ». Et il lâche le projet. Bon, ils sont tous un peu déçus. Pinotto se dit bah oui, je le sentais pas trop ce garçon.
Ils ont cru à une blague au départ. Ils pensaient qu'il plaisantait.
Ah oui.
Quand il a refusé, ouais. Il dit ah, tu déconnes. Non, j'aime pas du tout ça. Il s'identifie pas du tout à ce rôle de père. Ouais.
Incroyable.
Bah, il était dans des comédies à grand succès. Hein,
ouais, mais là il a pas eu de nez parce qu'effectivement ça a donné un second souffle à sa carrière probablement.
Oui, mais il était dans le premier souffle à l'époque. Il faut savoir, Francis Perrin, il montait des comédies sur son nom, il a même réalisé des films. Enfin, c'était.
Je me rappelle, il faisait des pubs pour des montres. Citizen, où il bégayait, ouais, c'était son truc. Ouais.
Et donc, bah, Pinotto se tourne vers Claude Brasseur parce qu'il vient de le diriger dans le Grand Escogriffe et il se dit si j'avais la chance d'avoir Claude Brasseur, ça serait formidable. Claude Brasseur vient d'avoir le César, il est au top de sa carrière, l'avoir dans un rôle de père de famille comme ça. Et Claude Brasseur va accepter.
Il est très bien d'ailleurs dans le rôle, il est vraiment formidable, je trouve. C'est un de ses grands rôles comme La guerre des polices ou. C'était un très grand acteur. Et Brigitte Fossé, est-ce qu'elle c'était le premier choix, Brigitte Fossé ?
Oui, complètement. C'était le premier choix parce qu'il l'avait adorée dans L'homme qui aimait les femmes avec Charles Denner.
Jeux interdits.
Et Jeux interdits, bien sûr. Le grand Moulin.
Jeff va nous jouer la musique à la guitare en fin d'émission.
On attend ça. Et le couple fonctionne super bien. Et surtout, ce rôle était assez moderne. On sent que le film est écrit par une femme parce qu'elle travaille, elle jongle entre son travail, son couple.
Elle s'est inspirée d'elle un peu, Daniel Thompson, en écrivant le rôle de Françoise Berreton.
C'est drôle parce que moi, je me suis demandé si elle ne s'était pas inspirée d'une grande dessinatrice de bande dessinée qui était très belle aussi, qui s'appelait Claire Bretéché. Mais qui dessinait des choses beaucoup plus acides, beaucoup plus cruelles. C'était une espèce de Razer femme, en fait.
Sûrement, c'est une source d'inspiration pour lui demander.
Ouais.
Il y a plein d'autres gens. Il y a Bernard Giraudot qui a le petit rôle du prof d'allemand qui aussi montait bien à l'époque et ils étaient contents qu'il accepte ce petit rôle. Il est très très beau.
Mais quand il est face à Sophie Lanceau, ce qui est drôle, c'est qu'ils ont exactement la même coiffure. C'était une coiffure que j'avais aussi à l'époque.
Il y a Jean-Pierre Castaldi en prof au début aussi.
Ah ouais,
il surnomme King Kong.
Et puis on retrouve Richard Boringer dans un caméo. Il avait un rôle un peu plus gros qui a été coupé.
La scène a été coupée.
Ouais, c'est
ça. C'est un copain qui vient aider parce qu'il y a une crise dans le couple Berreton. Il vient aider Claude Brasseur à déménager. Et ils avaient une scène dans l'appartement, dans l'emménagé. Puis finalement, on l'entreaperçoit montant des caisses dans le camion près de la place du Panthéon.
Il y a une scène où on voit Claude Brasseur dans un appartement répondre au téléphone. Et c'est l'appartement de Boringer, en fait, puisqu'ils ont une scène où ils doivent discuter ensemble, mais il a été coupé au montage.
Il y a aussi Denise Gray dans le rôle de Poupette.
Ah oui, Denise Gray. Elle n'avait pas tourné depuis 15 ans, Denise Gray, quand ils ont été la chercher. En fait, au départ, ils ont proposé à d'autres actrices.
Madeleine Renaud.
Oui, plus connues. Et personne n'accrochait vraiment. Et c'est un rôle qui était très important pour Danny Thompson parce que c'est un rôle qui est inspiré directement de sa vie. Sa grand-mère, Marcel Houry, était copine avec les Raoul Dufy, les Fujita, parlait un peu comme
Michel Drucker aussi.
Et oui, déjà.
Bravo.
Elle avait vraiment un flow, la grand-mère.
Artistique, c'était un personnage étonnant, excentrique.
Exactement. Mmh. Elle soutenait son fils, d'ailleurs. Elle avait des grands cahiers dans lesquels elle découpait toujours des articles qui parlaient de son fils. Même quand il était très, très connu, elle continuait à être.
Elle écrivait dans les cahiers comme John Doe dans Seven.
Ah non, bon ?
N'importe quoi.
Je te crois à chaque fois. Et c'était un peu un pari de Denise Gray et ça a très bien collé. Tout de suite, toute l'équipe l'a adoptée.
Elle est formidable. C'est vrai qu'elle amène une énergie au film. Il y a ce côté moteur de comédie dont on parlait avec des gens comme Maria Paco, mais le rôle est très bien écrit. On sent que c'est basé sur la vie. Et il y a une complicité étonnante, effectivement, entre Vic et elle. Elle est une espèce de mentor pour Vic. Et elle joue de la harpe, comme Harpo Marx.
Ouais. En fait, elle est doublée. Hein. Ses mains sont doublées par une vraie harpiste.
Ouais.
Qui s'appelait Lily Laskin.
Bravo.
Ah, bravo. Et il y a le Panthéon, vas-y. Un petit peu, qui est un héros de ce film, parce que, bon, elle est au collège Henri IV, les scènes se déroulent tout autour du Panthéon. La rue dans laquelle elle habite, c'est la rue Valette. On la voit rentrer, c'est la petite rue en face de la bibliothèque Sainte-Geneviève. C'est Pinotto adorait ce quartier. Il y a quelques scènes de la Gifle qui se déroulent déjà autour de la Sorbonne et tout ça. Et donc, son rêve, c'était aussi de tourner Henri IV. Il avait en tête ce générique de début en hauteur de la tour Clovis, qu'il a réussi à voir. Maintenant, c'est interdit de monter en haut de la tour Clovis parce qu'elle menace de s'effondrer, celle du lycée Henri IV. Et donc, il, à force de persuasion et un petit peu d'entre-gens au ministère et tout ça, il obtient d'avoir l'été 80... pour quand il n'y a plus d'élèves, pour tourner dans ce lycée Henri IV qui encore aujourd'hui, plein de gens passent devant. Moi, j'habite pas très loin et j'habite dans la rue d'ailleurs de la Boum et de Vic. Et plein de gens passent devant en disant oh, c'est le lycée de la Boum, c'est le lycée de la Boum. Donc, c'est assez rigolo parce que c'est à la fois le lycée le plus élitiste de France et le lycée de la Boum.
C'est drôle. Jeff, je voudrais que tu nous parles un petit peu de la bande-son du film qui a quand même rencontré un énorme succès avec Vladimir Cosma et un monsieur qui s'appelle Richard Sanderson.
Oui, tout à fait. Ou avec Derson, ça dépend des jours. En fait, au départ, c'est pas Vladimir. Il contacte d'autres musiciens, etc. Parce que Cosma est très, très demandé. Il fait des gros films pour la Gaumont. Et un des assistants de la Gaumont, enfin, contacte Cosma, il dit non, j'ai pas le temps, etc. Il venait faire la bavure, le coup de parapluie justement pour Gérard Houry. Et donc il refuse. Et donc là, Alain Poiret se forme un appel, il dit dis-moi, on te fait bosser sur des gros films, etc. Là, on fait un tout petit film, parce que c'était considéré comme un petit film, ouais. Boum à l'époque. On a besoin de toi. Et à ce moment-là, en fait, il est à Saint-Jean-Cap-Ferrat en vacances. Et donc il accepte évidemment vis-à-vis de Poiret, parce qu'il sait très bien que s'il refuse, il risque de plus travailler pour la Gaumont. Donc il accepte, et il a toujours avec lui un petit piano électrique portatif. Et il va composer la première mélodie de la Boum avec ça. Et donc, ils ont besoin d'un slow. Et comment ça s'appelle ? Vladimir Cosma ne fait pas des chansons écrites, des paroles, etc. Il fait que des musiques de films.
Ouais.
Et donc, il va demander à la SACEM de lui envoyer les 20 dernières années, les plus grands slows. Et il va s'en inspirer. Et une des matrices, je pense, c'est la chanson « Honesty » de Billy Joel,
ouais.
Qui va énormément l'inspirer pour Reality. Et au moment de trouver le chanteur... Une fois qu'il a composé la chanson, etc., il se heurte à quelques refus. En fait, il y a Demis Roussos qui est contacté, il y a Gilbert Montagnier qui est contacté, mais le courant ne passe pas entre Gilbert Montagnier et Vladimir Cosma.
Ouais.
S'il avait demandé à Claude François, peut-être que le courant serait passé.
Bravo. Mais,
qui est vanne pourrie, d'accord. Et il faut savoir qu'aucune maison de disques ne voulait du disque, quand on sait qu'ils en ont vendu 27 millions quand même, hein, ce qui n'est pas rien. Et aucune radio ne voulait passer la chanson, que ce soit RTR, enfin les grosses radios de l'époque, France Inter, RTL et Europe 1. Et Vladimir Cosma, qui connaissait Michel Drucker, qui était déjà là évidemment, et Michel Drucker le passe dans son émission, je pense qu'il était sur RTL à l'époque, et de là ça n'a pas arrêté, c'est-à-dire que les supermarchés, les Fnac, etc. ont été débordés de demandes, et le film a fini disque d'or, voilà. Et Richard Sanderson justement a chanté cette chanson, donc a changé le cours de sa vie évidemment, parce que lui c'était un petit musicien qui enregistrait ses trucs, qui n'avait pas vraiment de succès. Et Richard Sanderson a été sollicité pour la Boom 2.
Ouais.
Et malheureusement, il le dit, c'est un regret aujourd'hui. Son entourage a dit non, tu vas pas faire ça, tu vas être étiqueté à jamais pour la Boom.
Wow.
Non, ne le fais pas.
Et il a disparu.
Non seulement il le fait pas, mais il a plus jamais rien fait. Ouais. Voilà.
Mais ce qui m'a fasciné aussi, ce sont les autres chansons du film qui sont vraiment des à la manière d'eux. Il y a un ska qui fait penser à Manfred et Madness.
UB 40 aussi.
UB 40. Tu sens que Vladimir a étudié le top 50 et fait des à la manière d'eux, des chansons qui marchaient à l'époque, des hits. Mm.
Parce que la scène en fait de la Boum, la fameuse, elle est tournée avec les vraies musiques. Elle est tournée avec du vrai Bob Marley, vrai tous les trucs sur lesquels dansent les gamins pendant la Boum.
C'est pas les chansons de Cosma.
C'était pas les chansons de Cosma qui les avaient pas encore écrites.
Bien sûr. Ouais.
C'était les chansons qui passaient à l'époque et qui tournaient dans les soirées pour jeunes.
Ouais.
Et évidemment, Claude Pinotto savait qu'il avait absolument pas les moyens de se payer tous les droits de ces titres-là. Donc, en fait, il passe sa scène de Boum avec les musiques officielles à Cosma en lui disant « Essaye de caler les rythmes parce qu'on n'a certainement pas les moyens de s'acheter tout ça. »
Bien sûr,
d'où, en fait, ce petit côté un peu avec un air de...
Complètement. Voilà. Au départ, quand on l'entend pour la première fois derrière une porte de loin, j'ai cru que c'était « One Step Beyond » de Madness. Et puis, d'un coup, tu te rends compte que ce n'est pas du tout ça. C'est juste Cosma qui... pompe.
Exactement. Ouais. Ils avaient des problèmes sur les raccords, sur la boum, parce qu'il y avait des boissons, des gâteaux, tout ça, etc. Et évidemment, ouais. les gamins ne devaient pas y toucher, ouais. les ados, ouais. pour que ce soit raccord par rapport à la script. Ouais. Sauf qu'entre deux prises, évidemment, ils bouffaient tout. Donc c'était...
Est-ce mais que tu sais qui était la script?
Non, mais tu vas nous le dire.
C'est Catherine Prévert.
Oui.
Ouais. La nièce de...
De Jacques Prévert.
Wow, et attends, à propos des boissons et dans les soirées, est-ce qu'il y a une espèce de placement de produit pour Coca-Cola? Parce qu'on voit, on les voit boire du Coca-Cola plusieurs fois, ou c'était un truc qui ne se faisait pas complètement à l'époque?
Non, ça ne se faisait pas trop à l'époque. Ouais. Non, non.
Pendant la boum, tu sais, la vanne où ils mettent de l'herbe de Provence dans la weed d'un des gars, on l'a fait à un pote, ça.
Il est content. Il est ravi.
Comme dans les Soudoués, on aimait bien refaire l'influence que peut avoir. Et pour en parler du casting, il y a quand même d'autres seconds rôles. Il y a Dominique Lavanant, ouais. en rôle de nymphomane.
Bon, en plus, elle a la coiffure, elle est punk, elle est un peu punk rock. Ouais, ouais, la coiffure de David Bowie, c'est très étonnant.
Le petit haut rouge qu'elle a, c'est un truc qui était à elle, en fait, parce qu'il était assez sexy. Wow. Et il y a un truc qui m'a fait penser à On aura tout vu, le film qu'a écrit ton père.
Escalope.
Ouais, il demande à voir Rio Bravo, Brasseur, quand il est avec elle en VHS. Et en fait, elle a que des films porno. Alors, j'ai regardé les titres, ce sont des films qui n'existent pas. Hein.
La vaginale de Bob Morlock.
Ben non, il y a la j'ai regardé les titres, c'est La Nymphate et le Nympho, Caresse cosmique et Pompadour lubrique.
T'as fait arrêt sur image pour regarder les titres des cassettes.
Non, parce que je connais le film par cœur. Et en fait, c'est des films qui n'existent pas. Il y a aussi le comédien Jean-Michel Dupuis qui joue le rôle d'Étienne.
Ouais. Le copain Brasseur, absolument.
Et en fait, il n'est pas dans le 2. Et un jour, je l'ai vu au théâtre. Avec la classe, on était allé voir au théâtre. Et bon, c'était pas un rôle leader, donc il n'était pas trop connu. Et je lui pose la question de savoir pourquoi il n'était pas dans le 2. Et en fait, il avait fait un film de Claude Goretta qui s'appelait La vie de Mario Ricci avec Gian Maria Volonté. Et il m'a dit j'ai préféré faire ce film-là plutôt que la suite de la boum. Et c'est Daniel Russo qui a joué son rôle dans le 2.
D'accord. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, le commentaire play-by-play, la vision du film en Weberama. Alors tout d'abord, comme d'habitude, le titre alternatif, Popcorn Surprise, en référence à la fameuse scène dont nous allons parler tout à l'heure.
C'était pas des Chipsters?
Non, ce sont des popcorn.
Non, c'est du popcorn.
Tu l'as fait ça aussi, toi, dans un cinéma, non? T'as répliqué la scène?
Non, mais tu sais que ça a été repris dans un film américain.
Ah bon?
Ouais. C'est Mickey Rourke qui le fait, dans un film qui s'appelle Diner de Barry Levinson, donc 2 ans plus tard. Alors, je sais pas si Barry Levinson avait vu la boum. Et c'est Mickey Rourke qui met son pénis dans un paquet de popcorn et Kevin Bacon qui est là, qui le regarde, qui est son pote.
Et c'est Kevin Bacon qui prend
non,
qui
non,
sa main.
Non, c'est une actrice dont je n'ai pas le nom.
J'ai le nom.
Mais
moi,
ça a été repris.
Catherine Dolling.
Voilà.
Mais d'ailleurs, excuse-moi Sophie, auparavant, mais ça aurait été plus drôle si le gland de l'acteur avait dépassé de la boîte de popcorn, je trouve.
Mais alors, j'ai posé la question à Daniel Thompson, j'ai dit quand même, c'est hyper osé cette blague. Elle me dit, non, pas du tout. Nous, on faisait toujours ce genre de blague au cinéma, ça ne me gêne pas du tout. Et quand je lui ai parlé de la scène de Diner, elle a dit, oui, j'ai croisé Barry Levinson, mais il m'a dit qu'il n'avait pas vu le film. C'est comme si on avait presque eu la même idée au même moment.
C'est fou, mais moi, ça m'avait choqué à l'époque et ça m'a choqué encore cette fois-ci.
Ah oui,
je suis un puritain, mais j'ai trouvé ça quand même un peu hardcore pour un film d'adolescent.
Tout à fait.
Ouais.
C'est pas... Il faut croire qu'on n'a pas eu la même jeunesse que ceux des années...
Tous ces jeunes comédiens, bon, c'est fou, Sophie Marceau est quand même... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes comédiens qui débutent à cet âge-là et qui deviennent des stars.
Ouais.
Il y a eu Benoît Magimel qui a fait La vie de ton fleuve tranquille en France. Et la plupart n'ont pas eu des grandes carrières.
C'est très difficile de faire la jonction entre acteur-star et acteur, par la suite, adulte.
Ouais. Oublie Isabelle Adjani, qui a commencé dans Le Petit Bougnat.
Oui, oui. Comment ça s'appelle? Donc, il y a Sheila O'Connor, qui a continué à être comédienne.
Qui joue Pénélope et qui avait été auditionnée également pour le rôle de Vic.
Ouais, ouais. Alexandra Gonin, qui joue sa petite sœur Samantha.
Ça m'a gêné, cette espèce de sous-plot, de cette partie du film où elle est amoureuse de Brasseur.
Ah, c'est rigolo.
C'est elle qui est amoureuse. C'est
Lolita qui m'a gêné quand même.
Ben non, c'est elle qui est amoureuse, c'est pas Brasseur.
Heureusement, il manquerait plus que ça.
Voilà, donc c'est pas glauque dans ce sens-là. Et il y avait Laurent Ndiaye aussi. Enfin, il y a pas mal de comédiens. Il y a celui, je crois, il s'appelle, son nom de famille, c'est Philippe Léonard, je crois, il s'appelle, celui qui a les lunettes à triple foyer, avec sa fameuse scène où il accroche son appareil dentaire à celui de la fille. Ouais. Ils ont eu beaucoup de mal à le faire.
C'est un effet spécial digne de ILM. Ouais.
Ils ont eu du mal à le faire, ouais, tout à fait.
Il y a Alexandre Sterling, celui qui joue Mathieu.
Alexandre Sterling qui joue Mathieu.
Mathieu, c'est celui dont elle est amoureuse. Voilà. Ouais.
Alors, pour ceux qui aiment bien les petits détails dans les films, le comédien, enfin le jeune qui est un figurant, parce qu'il n'a pas de dialogue, avec laquelle elle danse à la fin, Sophie Marceau, elle a un coup de foudre pour un garçon.
C'est pas celui qui apparaît tout d'un coup derrière un canapé, comme ça, qui la regarde d'un air crapuleux?
Non, pas du tout. À la fin du film, elle danse avec Mathieu, bon, tout le monde s'en rappelle.
Ouais. Ah oui, elle voit un garçon qui est assez beau d'ailleurs.
Il y a une autre chanson qui s'appelle Go On Forever, et là elle tombe dans ses bras.
Tu peux nous la chanter ?
Non, pas du tout. Et là elle tombe dans ses bras, et puis pour se dire, voilà, elle est sûrement passée à autre chose. Et ce garçon, on le voit dans le film, bien avant, lorsqu'elle n'est pas loin du Panthéon, justement. Alors pour ceux qui ont le coup d'œil, c'est à 18 minutes et 17 secondes. Wow. Sophie Marceau descend d'un bus d'ailleurs.
À chaque fois, elle descend d'un train ou d'un bus, il y a une
figuration. Il y a un petit clin d'œil à Gérard Horry, puisqu'on voit l'affiche du coup du parapluie derrière. Donc elle fait un petit clin d'œil à son papa.
Okay.
Et Sophie Marceau descend, et derrière elle, on voit un jeune garçon qui est ce garçon qui avait dansé à la fin du film. Et malheureusement, ce jeune garçon est décédé.
Ah voilà.
C'est Claude Pinoteau qui l'annonce.
J'attendais à ce que tu plombes l'émission, effectivement. Mais donc il est décédé peu de temps après le film.
Non, je ne sais pas. Je suis qu'il était décédé. Je ne peux pas vous en dire plus.
Ok. Mais le film démarre avec Brasseur et Brigitte Fossé qui sont tous les deux en salopette. C'est étonnant. Tout le monde est en jean. Donc on sent vraiment qu'il y a quand même un design de costume
derrière.
C'est
Coluche qui avait lancé la mode.
Ouais, c'est ça. Et Jean-Pierre Castaldi, je trouve, dont tu as parlé, qui est assez beau en fait quand il est jeune. C'est drôle. Hein. Il a un charme. Il est presque aussi beau que Giraudot, je trouve.
Oui. Tu parlais de salopettes en jean. Savoir que la veste de Sophie Marceau en jean et son jean sont à la Cinémathèque aujourd'hui.
Wow.
C'était un don de Claude Pinoteau.
Incroyable. Toi, tu parlais de Cosma, où il fait une petite apparition, un caméo, où il est très menaçant derrière Sophie Marceau. Je trouve qu'il a un côté serial killer, un petit peu, toujours. Et il y a une séquence montage aussi, ce qui est assez rare, tu sais, où elle essaye plusieurs vêtements.
Ah oui,
ouais,
c'est formidable. Un peu la Pretty Woman avant Pretty Woman.
Un petit poil de racisme quand elle est habillée en chinoise, je trouve.
Tu vois le mal partout, toi. C'est parce que tu es marié avec une asiatique, c'est peut-être pour ça.
C'est probable. Mais sinon, Poupette est formidable, comme on disait. J'ai regretté à un moment, quand même, quand elle joue de la harpe, qu'il n'y ait pas une corde qui pète.
On le voit dans le 2, je crois. Dans le 1 ou dans le 2.
Ah bon ?
Il y a une corde qui pète. Ding !
Ah ben, peut-être,
j'en suis sûr. Peut-être que...
c'est peut-être dans le 2. Tu parlais de montage, justement. J'aimerais faire un petit clin d'œil à une grande monteuse, celle qui a monté le film.
Ouais.
Qui s'appelait, parce que malheureusement elle est décédée, Marie-Joseph Yoyotte.
Ouais, bien
c'est
sûr.
Une grande monteuse. Alors, elle a bossé avec Truffaut sur les 400 coups, Le Morin Prêtre, Melville.
Derrière un grand metteur en scène, il y a souvent une grande monteuse, comme Thelma Schumacher.
Elle a fait Le Distrait, La Gifle, Police Piton, Je vais craquer, Diva, L'été en pente douce.
Wow.
Et Microcosmos, parmi ses derniers films. Elle est décédée à 87 ans et elle a eu quand même 3 Césars. Voilà, donc c'était une grande monteuse que Claude aimait énormément.
Ouais. On voit également dans le rôle du patron du journal dans lequel travaille Brigitte Fossé, Frédéric de Pasquale, je ne sais pas si on dit de Pascal ou de Pasquale.
De Pasquale,
qui était Devreau dans French Connection, le type dont on mettait de la drogue dans la voiture, et qui était formidable. Et, en parlant de film américain, tu as vu au début Poupette conduit comme Bullitt.
Et d'ailleurs, dans cette scène-là, on voit Jean-Paul Belmondo. Sur la couverture de VSD, on voit une photo du Guignolo et sur lequel ils mettent un calque de Cyrano de Bergerac.
Ouais, c'est
ce qui est quand même
longtemps
un coureur, puisque bien évidemment. Et Claude a dit qu'il avait demandé l'accord à Belmondo, parce qu'il se connaissait beaucoup, parce qu'il avait quand même été assistant de réalisateur sur plein de films de Jean-Paul. Et Jean-Paul et Lautner avaient évidemment donné l'accord d'utiliser la photo du Guignolo.
Ouais.
Voilà. C'est rigolo, parce que c'est tourné dans les locaux même de VSD cette scène. Ouais.
Mais ça existe toujours les booms, ou c'est sur Instagram, maintenant c'est des Insta-booms, comment ça se passe?
Bon, c'est des raves maintenant qu'ils font.
Hein, non, des soirées, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est fort avec ce film, c'est que vraiment, ça va nous imposer un teen movie. On avait des films sur les jeunes de 16, 17 ans, mais des collégiens, des 13 ans, on n'imaginait même pas qu'ils avaient une vie en fait. Et ça va lancer cette mode des teen movies, mais presque bien avant les Américains. C'est très très fort, c'est ça l'impact du truc, c'est que des jeunes qui allaient au cinéma mais n'avaient pas d'héros qui leur ressemblaient ont trouvé tout de suite une identification avec Sophie Marceau absolument
dingue. Et ça a été un genre qui a fleuri effectivement en Amérique et qui a disparu un peu et qui a été remplacé par des teen movies d'horreur. Parce que quand on voit Scream ou quand on voit Les Griffes de la Nuit, c'est à chaque fois des adolescents qui sont menacés par Ghostface ou Freddy Krueger.
Il y a eu American Pie, il y a eu pas mal de films comme ça.
Mais tu regardes maintenant, c'est comme la comédie en Amérique, la comédie romantique aussi, c'est un genre qui a un petit peu disparu. Il y avait un teen movie d'horreur que j'aimais beaucoup qui était It Follows. Vous vous rappelez de ce film ? où tu avais une espèce de créature qui passait de gens en gens. Enfin, c'était une espèce de malédiction qui se transmettait sexuellement.
Pour en venir une dernière fois au casting, il y a un des jeunes, c'est celui qui organise la boum, qui s'appelle Raoul dans le film. Enfin, plus personne ne s'appelle Raoul aujourd'hui. Savoir que l'acteur s'appelle Alain Begel, qui est devenu réalisateur par la suite. Il s'est engagé récemment dans la Légion internationale pour aller combattre en Ukraine.
Ah bon?
Ouais. Oh. Mais il est resté juste 2-3 jours parce qu'ils se sont fait bombarder, etc. Il a un peu flippé, il est rentré en France. Et voilà. Et on parlait tout à l'heure du montage. Il y a un énorme faux raccord dans le film qui a été laissé volontairement parce que c'était la meilleure scène, avait dit la monteuse Marie-Joseph Hulliot. À 40 minutes 45 secondes, lorsqu'il y a un déjeuner dans un restaurant, il y a Brigitte Fossé, Brasseur et Étienne. À un moment donné, Brigitte Fossé enlève sa veste. Et sur le plan suivant, elle a encore sa veste. Vous verrez, ceux qui aiment observer ce genre de petits détails dans le film.
Mais Marceau, je trouve, fait un peu plus âgé que son âge dans le film.
Oui, alors qu'elle a, c'est parce que l'année après la boum, elle va rentrer en troisième.
Ouais.
Elle est vraiment.
Mais là, elle est grande, c'est déjà une femme quelque part. Elle a quelque chose de.
Mais ta fille n'a que 9 ans, tu verras quand elle aura 13 ans.
Dis donc, j'ai pas hâte de voir sa première boum.
Mais il y a la scène culte de boum dont il faut parler, c'est-à-dire quand le slow retentit et que Alexandre Sterling, Mathieu, met le casque de Walkman sur les oreilles de Sophie Marceau. Et elle écoute cette chanson pour elle toute seule, qui est une scène d'un romantisme absolu, de se dire qu'on a une chanson pour nous tout seuls.
C'est une belle idée, très belle idée. Moi, je me rappelle du Walkman, les premiers Walkman, tu sais, où on écoutait un avion qui passait d'une oreille à l'autre et qu'on était complètement sidérés. Mais je crois que c'est l'une des premières fois que j'ai vu un Walkman au cinéma. Et ensuite, c'était dans le Terminator. Quand Schwarzenegger cherche Sarah Connor au début.
Non, on voit le
Sarah
aussi.
Connor. Et il tue cette femme qui a un Walkman et qui ne l'entend pas entrer dans l'appartement.
Ouais.
Et Back to the Future, c'est quand il met sur les oreilles de Crispin Glover le Walkman et il dit je suis Dark Vador.
Mais ce qui est dingue, c'est qu'il y a tellement de trucs qui sont datés dans ce film. Le Walkman n'existe plus, le téléphone à fil et les cabines avec lesquelles ils échangent à longueur de journée. C'est génial cette scène où Claude Brasseur doit aller chercher sa fille dans cette fameuse boum parce qu'elle l'a appelée à l'aide parce qu'elle s'ennuie. Et finalement, elle ne descend pas. Donc, ils font la queue entre parents à
la cabine
téléphonique.
C'est très drôle, ça. Les parents qui sont obligés de se cacher et qui sont comme des flics en planque, ça, c'est très bien foutu.
Ouais. Et tout ça est super daté et plein de trucs et n'existent plus. Et pourtant, les jeunes d'aujourd'hui à qui on monte la boum, même s'ils ne connaissent pas les cabines téléphoniques, les téléphones sans fil et les Walkman, ils accrochent instantanément au film parce qu'il y a ce ton aussi formidable. Et puis, que ça soit du côté des parents comme du côté des ados. Et cette réplique que j'adore, moi, c'est « Qu'est-ce qu'elle a ?» Et Claude Brasseur qui dit « 13 ans
». C'est Brigitte Fossé qui le dit.
Ah, pardon.
C'est Brasseur pose la question.
C'est très bien écrit. Ouais.
Et le film, c'est aussi une très belle, je trouve, analyse de trois générations de femmes. Que ce soit cette adolescente, cette femme jouée par Brigitte Fossé, et cette arrière-grand-mère jouée par Denise Gray.
Arrière-grand-mère
Elle est arrière-grand-mère de. Ouais. Et c'est un beau portrait de trois générations de femmes. Ouais.
C'est vrai, mais moi, la dernière fois que j'avais vu le film, j'avais l'âge de Vic, quasiment. Donc je m'identifiais assez jeune, si tu veux. Et cette fois-ci, en le revoyant, je me suis plutôt identifié à Brasseur. Et il m'est arrivé la même chose avec The Shining. Au début, je m'identifiais à Danny. Et en le revoyant, je m'identifie à Jack Torrance. Surtout pendant la pandémie. Oui, le quart d'heure américain. C'est un truc étonnant.
Ah oui, aussi.
Ça a complètement disparu, ça aussi.
Complètement, oui. Enfin, je sais pas, mais j'imagine qu'ils n'ont plus ça.
C'est woke maintenant, le quart d'heure américain.
Ouais. J'ai regretté qu'il n'ait pas joué la chanson de Neil Diamond qui a été reprise par Urge Overkill dans Pulp Fiction. C'est Girl, you'll be a woman soon.
Ça aurait bien marché.
Ça aurait été parfait.
Mm. Mais il y a ces scènes aussi de danse et assez étonnantes où elle va la voir à son cours de danse. Et puis il y a plein de changements. Il y a des beaux moments de complicité mère-fille aussi qui étaient assez nouveaux. Il y a plein de choses dans les dialogues qui permettent de considérer les rapports enfants-parents d'une autre manière. On rêvait tous un peu d'avoir des parents comme les Béretton.
C'est vrai, elle n'est pas très à l'aise dans ces scènes de ballet. On sent que ce n'est pas complètement son truc, Sophie Marceau. Et c'est un film très bourgeois, parce que c'est vrai, ils ont une belle maison en Normandie, des beaux appartements, le lycée Henri IV. Et il y a un truc que fait Daniel Thompson, il n'arrête pas de manger au lit, des petits déjeuners, des dîners. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très désagréable. Il y a des miettes partout, c'est sale sur les draps. Et là, apparemment, leur idée du bonheur, c'est de manger au lit. C'est drôle.
Ah oui, c'est plutôt sympa.
C'est les années 80, tu peux pas comprendre.
Ouais, c'est vrai.
Et après, il y a des scènes, on a parlé des scènes assez choquantes. Il y a celle du pénis dans le paquet de pop-corn. Ouais. Et puis, il y a le fameux passage à l'acte, parce que la petite de 13 ans, elle envisage quand même de coucher avec son petit ami Mathieu, qui a 13 ans aussi.
Ouais.
Perdre sa virginité à 13 ans, ça a choqué beaucoup de parents. Je me souviens, mes parents, ils me disaient...
Moi, ça m'a choqué cette fois-ci.
T'aimes la boum, mais pourquoi ? Parce qu'eux n'avaient retenu que du film le fait qu'une gamine de 13 ans veulent perdre sa virginité. Et c'était fou pour l'époque. C'était quand même 17 ans au moins, dans les années 80, l'âge de...
Oh, ça m'a fait peur. On n'est pas très loin de David Hamilton, Billy Tee, c'est tous ces trucs-là, je trouve.
Moi, je reste persuadé que c'est des chipsters, pas des popcorn. Faudra vérifier. Ah bon.
Mais du coup, ce qui est fort dans l'histoire, c'est qu'elle la perd pas finalement, parce que l'arrière-grand-mère va l'emmener dans cet hôtel au bout de ce qu'elle veut être, parce qu'elle veut prouver qu'elle est grande et dire « Mais non, je t'ai jamais pris pour un bébé. » Elle fait un demi-tour de dingue sur l'autoroute avec sa petite R5.
Et puis, à
Cabourg.
À Cabourg, pour l'emmener à Cabourg à l'hôtel. Et finalement, la meilleure éducation, c'est peut-être ça. C'est peut-être de montrer aux ados qu'on les prend pas pour des bébés et que, eh ben, vas-y, fais tes choix, montre-moi si tu veux aller là, est-ce qu'on va jusqu'au bout?
Ouais.
Et ça a beaucoup plu aux jeunes, moins aux parents, mais ça a beaucoup plu aux jeunes, ce côté, c'est moi qui prends la décision.
Cette indépendance, tout d'un coup, cette liberté, effectivement, ouais. Il y a un truc, c'est que Lavanant, qui est habillée à un moment comme une playgirl, t'as vu, très sexy, dans la scène avec Brasseur, elle dit, les truffes sont aphrodisiaques, mais je croyais que c'était les huîtres. Jeff, toi qui es un spécialiste.
Le gingembre, surtout.
Qu'est-ce que vous faites là? Vous regardez vos photos de vacances? Qu'est-ce qui se passe?
Non, en train de vérifier si c'est les chipsters du popcorn. C'est quand même important comme question. La France est en danger. Hein, ben on va vous dire.
Pourquoi? Vous êtes en train de passer le film là?
Chipster ou popcorn alors? La question que se posent tous nos auditeurs.
C'est des chips, c'est pas des popcorn, j'ai vu.
T'es sûr?
Reviens juste un peu avant.
Il
y a écrit chips sur le paquet.
Ah oui, c'est vrai, c'est pas une boîte de popcorn, c'est une boîte de chipster. Ouais.
Merci.
Non, c'est pas des chipsters, c'est des chips génériques. C'est des chips génériques, un petit peu comme la musique de Vladimir Kosma, qui a mis des paroles anglaises d'ailleurs extrêmement génériques dessus. À un moment, j'ai noté, elles sont habillées en Girl Scout. Jeff, tu te rappelles quand elles sont habillées en scout, non? Il n'y a pas une scène?
Oui, Samantha et Pénélope.
C'est ça. Tu connais la définition des scouts?
Vas-y, sors ta vanne.
C'est pas de moi, ce sont des enfants habillés comme des idiots, dirigés par des idiots habillés comme des enfants.
C'est un film de Junio, scout toujours.
Ah oui, c'est vrai, ouais. Je trouve que Giraudot et Brigitte Fossé ne ressemblent. Plutôt Sophie Marceau, Vic, ne ressemble pas du tout à Giraudot et Brigitte Fossé. Elle ne ressemble pas du tout à Brigitte Fossé et Brasseur. Elle ressemble plus à Giraudot.
Bah, d'un côté, c'est pas sa fille, donc c'est normal. Mais...
Oui, ils font une référence à l'Empire des Sens, à un moment. Une jeune fille, et j'ai trouvé que c'était limite, ça aussi.
D'ailleurs, au cinéma, on voit l'affiche de l'Empire contre-attaque.
L'Empire des Sens.
C'est ça pour Romain Lenov, qui aime bien regarder où c'est qu'il y a des affiches dans les films.
Docteur Popol dans Munich.
J'adore la scène, justement, ils vont au cinéma et la petite Samantha, la petite sœur qui doit avoir 11 ans, elle n'a pas l'âge, ils vont voir tous un film interdit aux moins de 13 ans et ils la soulèvent pour récupérer la place de cinéma pour pouvoir passer tous ensemble. Et c'est bien d'avoir un film où on va au cinéma, je trouve.
Ouais, c'est le cinéma de Marcel Dassault, Le Paris, qui a disparu depuis.
Ah oui.
À propos de choses qui ont disparu, la main jaune, on allait faire du patin à roulette, t'as vécu ça, Jeff?
Ouais, Guillaume Canet fait un clin d'œil dans Rock'n'Roll.
Ah bon, ouais.
Ils envoient un texto avec Gilles Lelouch, etc. Il fait, on va au Baron ce soir. Et Gilles lui répond, non, mais le Baron est fermé depuis 6 mois, mec. Hein. Il fait, même la main jaune, enfin, tu vois, il fait comme ça. Donc c'est un petit clin d'œil à la boum.
C'est assez drôle d'ailleurs quand Brasseur essaye de faire du patin à roulette. C'est très bien foutu. Il a une vraie physicalité comique, Brasseur. Et c'est un très bon acteur. Il joue très, très bien dans le film, je trouve.
Ouais.
C'est avant que sa voix ne soit détruite.
Ah ouais, il a une voix éraillée, etc. Mais moi, c'était mon pote, donc je...
Bien sûr.
Respect éternel à Claude.
Ouais.
Et après cette scène, il y a une réplique immortelle de Sophie Marceau que j'adore. C'est parce que, du coup, en fait, Sophie Marceau a fait passer son père pour son petit ami, lui a fait un smack. Claude Brasseur, tout fier, revient. Elle a besoin d'autorité, cette petite. Mathieu, le petit ami de Marceau, prend Claude Brasseur pour le petit ami. Et donc, il y a une espèce. Et comme Claude Brasseur attend sa fille à la sortie du collège, il va vers lui. Alors, t'as un petit gamin de 13 ans qui va vers Claude Brasseur tout énervé et qui veut casser la gueule à Claude Brasseur pensant que c'est son rival. Et là. Sophie Marceau, t'a cassé la gueule, il t'a cassé la gueule, c'est formidable.
C'est génial, ouais.
Elle est bien faite cette scène d'ailleurs, parce que c'est assez difficile de simuler un combat, surtout avec un adolescent et brasseur. Et là, on a vraiment l'impression que l'autre veut lui mettre des pains et tout, c'est très bien foutu. Ouais.
C'est là qu'il se rend compte que Giraudeau est le prof de Sophie Marceau.
Oui, et aussi l'amant de sa femme.
Il y a une scène qui m'a surpris un peu, c'est le moment où ils sont dans le bus, je crois, et qu'il y a cette dame qui écoute ce qu'ils se racontent, Poupette et elle, et Poupette commence à engueuler cette femme alors qu'toutes les deux parlent très fort devant cette femme. Je veux dire, elle devrait au contraire s'excuser.
En fait, elle l'engueule pas. Et il y a une expression qui est interne à la famille de Daniel Thompson. C'est quand quelqu'un écoute une conversation, ils ont un code entre eux, ils appellent ça fauteuil d'orchestre, qui était un titre de film de Daniel d'ailleurs.
Ouais.
Et donc, lorsque elle parle, les deux adolescentes, Pénélope et Vic, parlent à Denise Gray, il y a cette dame qui est assise à côté, donc par la force des choses, elle est en train d'écouter.
Ouais.
Et elle est assez choquée par les propos de cette vieille dame jouée par Denise Gray. Et puis Denise Gray balance fauteuil d'orchestre, dans le sens, elle écoute alors qu'elle n'a pas écouté.
Mais ceci dit, je te dis, elle parle très fort devant elle, donc tu ne peux pas ne pas écouter si tu es assis à côté de ces gens-là. Si tu
veux. Mais tu n'es pas obligé d'avoir une réaction. Non, moi, j'ai trouvé ça drôle, j'ai toujours rêvé de le faire. Les gens qui émettent des avis ou qui on voit sur leur visage qu'ils pensent quelque chose. Mais alors, mêlez-vous de vos affaires.
Non, mais après, elle dit quoi? Elle dit juste, elle couche, voilà.
Non, elle dit, et vous en pensez quoi, vous?
Mais j'ai trouvé la scène où Vic, justement la main jaune, qui serait un meilleur nom pour une boîte ondiniste, Vic qui embrasse son père sur la bouche. C'est horrifiant, ça.
Ouais, mais c'est filmé de dos.
Heureusement.
Pas.
Ouais.
Oui, après, ils seront partenaires.
Savoir que, voilà, j'allais dire, ça a été un scandale quelques années plus tard, quand Francis Giraud a réuni Sophie Marceau et Claude Brasseur. Claude m'avait dit, ils ont reçu des lettres et des torrents d'insultes, et même Lagomont s'était insurgé, parce que dans Descente aux Enfers, Brasseur est nu sur une plage avec Sophie Marceau. Wow. C'est des scènes assez explicites. Et donc ça, finalement, ça a cassé le mythe, parce que quand même le père de la boum qui couche avec sa fille dans le film,
ouais.
C'était quand même les deux mêmes comédiens, et quelques années plus tard, hein, je crois que c'est de 87 le film, donc wow. deux ans après la boum, 5 ans après la boum 2.
Incroyable.
Et ils ont pris des lettres d'insultes à Lagomont, quoi, vous avez pu laisser ça, etc. Et Alain Poiret s'était offusqué évidemment de ce film. Enfin, en tout cas, des scènes qui étaient dans le film Descente aux Enfers de Francis Giraud.
Et est-ce
avec
que...
notre ami Sidiki Bakaba.
Oui, que nous allons accueillir bientôt dans l'émission. Mais est-ce que Poupette est dans la Boom 2? Je ne m'en rappelle plus.
Ah, bien sûr, Poupette est dans la Boom 2, hein, oui. Même qu'elle a une scène incroyable. C'est marrant parce qu'on confond souvent les scènes entre la Boom et la Boom 2, mais elle a cette scène parce qu'il y a Lambert Wilson dans la Boom 2 aussi, et qui est plus âgé, qui a 25 ans, alors que Vic en a 16, et il est en jean. Et il arrive pour récupérer Sophie Marceau à l'entrée de son appartement. Et Poupette, elle s'est habillée un peu d'âme. Et Lambert Wilson arrive tout en jean. Et Poupette se retourne et fait « Il est en jean de là, jusque là !»
Et ça, Lambert Wilson a dit, mais enfin, Lambert Wilson a une immense carrière quand même. Hein. Il a fait Matrix, il a fait... Il m'a dit « On ne me parle que de la Boom 2. » Quand les gens viennent me voir, les gens me parlent de la Boom 2.
La bonne acteur,
c'est alors qu'il s'appelle Félix Maréchal dans le film. Et Maréchal, c'est un nom qui revient souvent dans le cinéma d'Oury Daniel Thompson.
Ouais.
Puisque Antoine Maréchal, donc dans le Corneau, il s'appelle Maréchal Bourville. Et Jean-Paul s'appelle Maréchal le cerveau.
Mais ouais. Je crois que c'était le nom de Jean Gabin dans La Grande Illusion, Maréchal.
D'accord.
Ouais. C'est un beau nom d'ailleurs, mais... Il y a un truc que font les acteurs que je déteste, c'est quand ils font semblant de manger. Tu sais, parce que quand tu as des scènes de restaurant, effectivement, quand tu fais 10 prises et que tu as de la bouffe froide devant toi, c'est très difficile. Mais là, ils sont avec les pattes devant eux et ils ne mangent pas du tout. On voit qu'ils jouent avec leur nourriture comme ça et tout. Et c'est un des trucs qui m'énerve.
C'était un resto qui était Faubourg Saint-Honoré. Quand il n'existe plus, ce resto italien. Mais c'était pas loin d'ici.
Le deuxième truc qui m'énerve, c'est quand les gens portent des valises et on se rend compte qu'il n'y a rien dedans.
Sont vides, c'est catastrophique, ça.
Et le troisième truc, c'est quand les gens ouvrent une porte à la volée. Et qu'elle ne revient pas dans leur gueule. Tu sens que tu as un assistant derrière la porte qui la tient, si tu veux, et ça m'énerve aussi.
Le sens interdit qui est sur la porte de la chambre de Sophie Marceau, c'est Claude Pinoteau qui l'a récupéré, c'est sa fille qui l'a utilisé pendant des années.
Ah, ça ne m'étonne pas, mais c'est drôle. Il y a une petite scène à la rue Barbare où Giraudeau, tout d'un coup, est agressé par des voyous, tu as vu? Et Brasseur les éjecte comme Bud Spencer.
Mais il attend, tu as vu, il y a quand même un laps de temps où il laisse un peu de sarcasme.
Mais t'as vu, je m'attendais à ce qu'il leur envoie des grosses baffes comme Bud Spencer, parce que t'as vu, il les prend et il les jette, simplement.
Bah, il est dentiste en même temps, hein. Il n'est pas catcheur dans le film, donc il a adapté son mode de combat.
C'est vrai, il aurait dû se battre avec une fraise, comme dentiste. Donc,
il est dentiste, un métier qui plaît bien à la famille Houry, puisqu'on avait la femme dentiste de Louis de Funès dans Rabbi Jacob, et on a Claude Brasseur, dentiste.
Je déteste les scènes de dentiste, bien sûr, Marathon Man, Is It Safe. Mais on te parlait aussi de La Petite Boutique des Horreurs, où Jack Nicholson, c'était un de ses premiers rôles, où il faisait un client masochiste.
Et Brigitte Fossé, elle, elle est dessinatrice de BD. C'est assez original comme métier dans un film. On l'avait pas beaucoup vu. Et ils l'ont vraiment inclus dans une équipe de dessinateurs quand ils ont fait le groupe auquel elle appartient et tout ça. Et elle a beaucoup travaillé ce dessin. Elle racontait pour être crédible. Et elle était contente que son personnage ait un métier, et un vrai métier passion, quoi.
C'est vrai. Oui, vous avez vécu la mode ska, vous ?
Non.
Moi, j'avais le 33 tours de Madness.
Ouais. Ouais, mais moi, j'avais une veste à carreaux et tout. J'avais pas le petit chapeau, mais... Et mon frère, lui, il s'était maquillé comme Robert Smith avec les cheveux noirs en l'air.
Ah, tu m'enverras une photo. Non, moi, j'étais plus dans le hard rock à l'époque.
Ah oui, moi aussi, j'adorais ACDC en particulier.
Ouais, ACDC, Iron Maiden.
Moi, j'avais acheté le 33 tours de Reality.
Ah bah oui, bien sûr, c'était un énorme succès.
Moi, je l'avais volé, le 45 tours.
Volé ?
Ouais, j'avais pas de sous.
Pénélope, à la varicelle, elle est extrêmement contagieuse quand elle se rend à cette boum-là. C'est quand même... c'est limite, ça aussi, non ?
Mais c'est du cinéma, je ne sais pas.
Style quand t'es malade et que t'es gamin et t'as un truc important à faire, tu vas. Hein.
C'est un ressort de comédie, je trouvais ça drôle. Elle la chope de sa petite sœur, en fait. Il y a ces relations entre les deux sœurs qui sont tout le temps à couteau tiré. Moi, je trouvais ça très sympa, ce subplot, comme tu dis, dans la famille. Parce qu'on a une réalité aussi dans la famille de Pénélope qui est assez triste, de cette femme qui élève seule ses deux enfants, qui travaille souvent la nuit, dont le père est journaliste, visiblement... il s'occupe pas de toutes ses filles et grand reporter à un moment il doit voir sa fille qui essaye de devenir petit rat de l'opéra et il peut pas venir parce qu'un immeuble a explosé à Bogota et on sent qu'il assume pas du tout ses filles et je sais plus si c'est la boum ou la boum 2 mais c'est Brasseur qui finit par conduire la petite à son concours de l'opéra, c'est dans le 2 voilà. Et donc je trouve ça, on a un petit flash un peu de la société française à l'époque, de ces femmes qui sont des mamans solo, qui élèvent leur gamine, qui sont laissées de la petite qui doit gagner des sous pour devenir babysitter. Enfin, c'est la société française des années 80. C'est bourgeois, mais pas que.
C'est vrai, on a plusieurs...
D'ailleurs, le personnage de Sheila O'Connor, Pénélope, s'évade au cinéma parce qu'elle dit qu'elle va avoir 10 films américains par semaine.
Wow.
Elle est fan de Warren Beatty, Redford, elle a un poster de Redford dans sa chambre.
Ouais.
Elle
parle de Dustin Hoffman aussi à un moment, je crois. Non
ouais, ouais. Elle voit des ressemblances partout.
C'est ça.
Et je disais beaucoup, Warren Beatty, tu ne trouves pas qu'il ressemble à Redford ? Bon, un peu bébé quand même. Tu vois. Donc, elle a des références comme ça. Et voilà, donc Sheila O'Connor est fan de cinéma.
Et dans le 2, ça commence avec une séance de cinéma à la Pagode. C'est comme ça qu'elle se rend compte qu'elle n'a pas le bon passeport. Et ouais, elle l'emmène au ciné. Ouais.
Et d'ailleurs, il y a la petite Samantha qui sort avec un garçon, à un moment donné, dans une boum.
Ouais.
Elle embrasse un garçon.
Wow.
Et en fait, Claude Pinoteau lui dit voilà, ça sera lui. Et puis elle va voir, elle fait, il me plaît pas, je peux en choisir un autre. Et donc Alexandra Gonnet a choisi le mec qu'elle avait le droit. Parce qu'elle a dit j'avais jamais embrassé un garçon, elle était jeune. Hein.
Ouais.
Et bon, ça restait un smack, mais bon, elle voulait tant qu'à faire un garçon qui lui plaise. Donc elle a choisi un autre garçon celui qui était prévu.
Ouais. C'est comme Gina Davis qui a choisi Brad Pitt quand il est arrivé au casting de Thelma et Louise.
On se demande pourquoi. Hein.
elle a vu plusieurs mecs et tout à coup, Brad Pitt jeune est entré, elle a dit ah oui, c'est lui. Et maintenant, Jeff nous parle de l'homme au mégaphone avec des culottes de cheval et un béret et un monocle, le réalisateur.
Alors Claude Pinoteau, que j'ai eu la chance et le privilège de connaître grâce à Georges Laudner, car c'était très proche. D'ailleurs, il y avait un joke qui revenait en permanence entre Laudner et Pinoteau. C'est moi, j'avais l'habitude tous les lundis matins, j'allais chez Georges Laudner boire le café, je lui amenais les petits croissants et je lui amenais le programme télé de la semaine.
Ouais.
Et son grand plaisir à Georges, c'était de regarder les programmes télé, parce qu'il y a toujours un film de Lautner qui passe toutes les semaines. Il me disait toujours « Ah, je suis fier, il y a 3 films de moi, il n'y en a pas un seul de Godard. » C'était sa fierté. Et lorsqu'un de ses films passait en prime time sur une des 3 grosses chaînes, il prenait son téléphone et il appelait son ami Claude Pinoteau.
Ouais.
J'ai assisté à ça, donc je vous aimais. Il fait « Salut connard, et tonton flingueur dimanche soir sur France 2. » Il lui raccroche au nez. La semaine suivante, Pinoteau appelle. La Boum sur France 3, jeudi soir, 20h30, je t'emmerde. Et Pinotto lui raccroche au nez. C'était un joke entre eux et c'était très drôle.
Une rivalité complice comme ça. Et... c'est très
alors Claude Pinotto, il est né un 25 mai, comme Pierre Vernier, comme Klaus Meine, le chanteur de Scorpion, puisqu'on parlait des heavy metal, et comme Gilles Boulot.
Il a commencé qui est Gilles Boulot?
Gilles Boulot, c'est le présentateur du JT de 20h sur TF1. Ah. Très connu en France, mais il faut vivre en France pour ça, bien sûr. Hein. Et donc, il a commencé comme accessoiriste, régisseur. En fait, il a été assistant de grands, grands metteurs en scène, comme Verneuil, Lelouch, Jean Cocteau, René Clair, Philippe de Broca. Et il m'a dit, je préfère être assistant dans des grands films que faire des petits films. Donc, il a attendu assez longtemps, je crois, il est presque 50 ans pour faire son premier film, Le Silencieux, avec Ventura. Il était très, très ami avec Ventura. Ils ont fait plusieurs films ensemble, puisqu'ils sont connus sur L'Aventure, c'est l'aventure aussi, le film de Lelouch.
Ouais. Il était assistant de Lelouch?
De Lelouch, ouais, c'est L'Aventure, c'est l'aventure. D'ailleurs, on le voit dans beaucoup de films. Un homme qui me plaît aussi, on le voit. Il a une voiture, il poursuit Jean-Paul.
C'était un très grand assistant, effectivement. Je me rappelle, Cocteau cherchait un château qu'il n'arrivait pas à trouver, je ne sais plus pour quel film. Et Pinotto, c'est lui qui me racontait, il m'avait dit, mais il existe ce château, puisqu'on va tourner dedans mardi.
Il avait fait le Saint-Jean d'hiver aussi, comme assistant. Donc moi, j'adorais quand il me parlait Saint-Jean d'hiver. C'est quand même pas rien. Il parlait toutes les explosions qu'il y avait à la fin, etc. Et Claude, c'était un livre ouvert. C'est-à-dire, quand tu parlais avec lui, beaucoup plus que Laudner, qui était un ami, qui racontait moi. Mais Claude, il racontait José Norme. Je vous conseille son livre qui s'appelle Merci la vie. Et il y avait une année extraordinaire sur Lino Ventura. Ventura, en fait, était donc un fils d'immigré et il n'avait plus son père, il n'avait que sa mère. Et lorsqu'il rentre à l'école, sa mère lui dit « ça serait bien que tu ramènes un prix à la fin de l'année, etc. » tout ça. Et puis, à la fin du trimestre, il ramène le prix de lecture, ce qui faisait la fierté de sa mère. Donc, elle invite tous les voisins, la famille, tout ça, à faire un grand goûter et tout. Et il ramène le prix de lecture, tout fier. Et d'un coup, pendant le goûter, il y a quelqu'un qui frappe à la porte et la mère de Lino Ventura ouvre et elle voit un père de famille avec son gamin qui a un coquard. Il fait « excusez-moi, mais il y a votre fils qui a cassé la gueule au mien pour lui piquer son prix de lecture.
C'est drôle. Et maintenant, que celui qui a encore quelque chose à dire sur le film le dise ou qu'il se taise à tout jamais. Silence, au silence qui suivit, je compris que c'était la fin de l'émission. Bien, merci mes ciné buddies pour ce quart d'heure américain et ce voyage nostalgique dans notre adolescence. La mienne en tout cas. On se retrouve dans quelques jours pour un nouveau podcast Grand Écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez Kinopod. Voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase.
Jeff Domenech, à mon ami Claude Brasseur, où que tu sois, je t'embrasse.
Sophie Benhamon, j'allais dire Sophie Marceau, incroyable. Sophie Benhamon, il t'a cassé la gueule.
Parfait, je suis Jean Weber pour Kinopod, le podcast qui a besoin d'une boîte de popcorn king size. Maintenant, on sait que c'est une boîte de chips. Et maintenant, tous ensemble, podcast is my reality, the only kind of real fantasy. Merci, Jeff, d'avoir suivi.
Bravo.
Je l'ai fait en playback, hein. Désolé.